Dieu vous bénisse, nous allons commencer, nous allons prier le Seigneur. On se place devant le Seigneur et on croit qu'il est encore avec nous pour nous assister. Alléluia. Merveilleux Père Céleste, nous te remercions, nous t'adorons et nous venons à toi au nom de Jésus-Christ encore ce soir. En sachant que toi, tu vois déjà nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos besoins. Et tu continues à nous assister dans nos vies. Nous dépendons vraiment de toi. Tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu le sais, ce sont des épreuves qui viennent autour de nous. Et sûrement, certainement, tu nous donneras la force de sortir victorieux toujours plus. Merci Seigneur encore pour cette soirée qui va encore contribuer à l'avancement de ton règne. Tu vois que nous avons besoin de te connaître toujours plus, de sanctifier nos vies et de nous préparer toujours plus, d'être prêts pour ton retour. Merci Seigneur, bénis cette soirée, bénis tous les besoins qui sont autour de nous. Nous voyons encore des personnes qui sont souffrantes et aussi l'ami de frère Patty, une jeune fille, une jeune femme que nous présentons encore à toi. Il est vrai qu'il y a une grande peur dans ce monde. Il y a toujours de la peur de ce Covid, mais toi, tu nous fais grâce. Tu fais grâce de regarder à toi, regarder au calvaire, à la croix, et de pouvoir en sortir toujours victorieux. C'est vrai, Seigneur. Par le sang précieux, c'est ce sang précieux qui nous libère de tout mal, et c'est selon tes promesses. Par tes meurtrissures, par ce sacrifice glorieux et merveilleux, tu nous accordes ton secours, ta guérison. Oui, Seigneur, bénis ta parole encore ce soir. Révèle-la nous. Révèle-toi au milieu de nous comme tu l'as jamais fait. Nous avons vraiment besoin de toi. À toi, gloire et honneur, remerciement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on va commencer par l'aide circulaire de frère Franck, 33 de janvier. Donc on va vite terminer. On était resté là la dernière fois. Le frère Antonio est arrivé. Voilà, le frère Franck, on va commencer à lire la lettre circulaire. Voilà, on était. Maintenant, je vais lire en français. Lettre circulaire 31, donc, et c'est de janvier 1985. Ça s'appelle mise au point. Ça, on l'avait lu la dernière fois. C'est lettre circulaire 33 de janvier 1987. Aussi, spirituellement parlant, personne ne devrait retourner à l'endroit d'où Dieu l'a appelé. Notre modèle en cela est Abraham qui, à l'appel du Seigneur, quitta sa patrie pour aller dans un pays étranger. Bien sûr, la plupart d'entre nous sont au courant de l'histoire d'Abraham. On parle bien que le Seigneur a parlé à Abraham. Sort de Our. On va le dire ça aussi. Donc on parle d'où le Seigneur nous dit sortez de Babylone. C'est pas qu'on doit retourner d'où. Donc Dieu nous a appelé qu'on était dans Babylone et on ne devait pas y retourner. Donc frère Franck avait écrit, Dieu l'appela, lui fait des promesses qu'Abraham crut et qu'il vit s'accomplir. Dans Hébreux 11, 9 et 10, il est dit de lui, par la foi il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc le frère Franco dit qu'il ne faut pas retourner dans les erreurs d'avant. On a bien compris l'appel que le Seigneur nous a fait. Automatiquement, bien sûr, on est passé d'un autre côté. Donc Genèse 12. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Donc, quand le frère Franck écrit, il ne faut pas retourner à l'endroit d'où on a appelé, il ne faut pas retourner dans ce pays-là, de l'origine d'où on est. De la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Vous voyez? Aussi, Exode 14, 13, qui m'est venu à cœur, un peu la même chose ici. Exode. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne voulaient plus retourner en Égypte. Ils ne devaient plus retourner en Égypte. Donc, Exode 14, 13. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel, qu'il opérera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquilles. Alléluia. Vous voyez? Vous ne les verrez plus. Ça veut dire qu'on est sorti. C'est dans ce sens-là que le frère Franck a écrit que personne ne devrait retourner à l'endroit d'où Dieu l'a appelé. Avec cette citation. Donc, spirituellement parlant, personne ne devrait retourner à l'endroit d'où Dieu l'a appelé. Notre modèle en cela est Abraham, etc. Donc, c'est une bénédiction de ne plus retourner dans Babylone. Ça veut dire ne plus retourner en arrière. De ne plus se retourner comme la femme de Lot, qui est retournée en arrière, qui s'est tournée en arrière. Faut plus faire cela, c'est fini. Comme ces Égyptiens qui avaient persécuté. Le pharaon a fait du mal à Moïse. Et ces gens-là qui avaient fait souffrir le peuple de Dieu, vous ne les verrez plus. Et dans la justification de la rencontre avec le Seigneur qu'on a faite, il a pardonné nos péchés, nos fautes, et nous avons accepté le baptême parce qu'on a reconnu ce qu'il a fait. Et il s'agit de cela, c'est que l'Égypte, on ne doit plus avoir les yeux dessus. L'Écriture dit que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Vous voyez? C'est ça. Donc je continue à lire ici le frère Franck. Donc je répète, c'est la lettre circulaire 33 de janvier 1987. Donc Dieu l'appela, il lui fit des promesses qu'Abraham crut qu'il vit s'accomplir. Dans Hébreux 11, 9 et 10, il dit de lui, par la foi, il demeura dans la terre de la promesse comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Les vrais croyants sont désignés comme étant la postérité d'Abraham, ils dressent leurs tentes sur la terre tout en sachant bien qu'ils n'y sont que voyageurs étrangers. Donc il faut se rendre compte qu'on est ici de passage sur la terre. C'est comme par exemple Jacob, Isaac, ils étaient là, ils creusaient des puits, ils plantaient des tentes, ils mangeaient là, à ce moment-là, ce qu'il y avait, et ensuite le Seigneur, parce qu'ils cherchaient, le faisaient continuer, parce qu'eux cherchaient une cité, comme on l'a lu, dont les fondements sont éternels. Donc, c'est ce qu'on cherche aussi. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se fossiliser sur une situation. Parce que pour Dieu, toute chose devient toujours nouvelle. Donc ils dressent leur tente sur la terre tout en sachant bien qu'ils n'y sont que voyageurs étrangers. Dans le royaume des cieux, ils prendront part au grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob. Matthieu 8, 11. Dans Galates 4, 28, Paul dit, or vous êtes frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Celui qui est vraiment né de la semence divine croit et expérimente les promesses que Dieu lui a données. Cette lettre circulaire constitue une exception car nous y présentons une rétrospective des 20 ans de cette œuvre et certains points culminants y seront relevés. Cela fait en tout maintenant 33 ans, mais là, c'est en 1987, donc maintenant ça fait beaucoup plus, hein, presque 60 ans. Donc cela fait en tout maintenant, donc en 1987, 33 ans que je prêche et que je sers le Seigneur. Déjà en 1953, j'avais pris la parole lors de la conférence internationale de Pentecôte à Kassel, en RFA, l'ancienne République fédérale d'Allemagne. Je me souviens encore bien m'y être référé alors au passage biblique d'Apocalypse 3, 24. À cette époque, je ne savais encore rien de Frère Branham, de son appel ou de son ministère. Cependant, j'avais déjà réalisé à ce moment-là que nous nous trouvions maintenant dans l'âge de Laodicée. Ça aussi, c'est important. Comme on l'a dit l'autre fois, mais je le répète, c'est important. Voilà pourquoi l'esprit de prophétie, comme on l'a dit dimanche, touche. Quand le message est venu en 1933, quand le Seigneur a donné cet ordre comme Jean-Baptiste et aussi avec le ministère de Frère Branham, et etc., etc. Et quand il y a eu les sept sceaux, quand ils ont été ouverts, les mystères de Dieu, l'esprit de Dieu de révélation s'est élargi, c'est-à-dire, et tout le monde, et cet esprit est allé dans tout le monde, l'esprit même est allé dans tout le monde, et je le crois, et je le dis, et je le crois parce qu'on a eu des témoignages. Ils n'ayant même pas entendu le frère Branham, ils avaient déjà des témoignages surnaturels que l'Esprit leur donnait. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient élus, ils étaient déjà fils de Dieu avant la fondation du monde. Et l'Esprit les touchait, voyez ? Et ils se sont approchés de la parole. Exactement comme on est en train de le dire ici, que le frère Franck, déjà, il sentait, donc il avait déjà un cœur, il savait qu'on était arrivé dans l'âge de Laodicée. Donc là, qui est ni chaud ni froid, etc. Donc je ne sais pas si vous avez compris, mais ça c'est très important. L'esprit touchait les cœurs qui étaient déjà prédestinés et qui devaient venir à la parole, à la lumière. Moi je crois de tout mon cœur. Voilà pourquoi on a été touchés nous aussi. C'est vrai qu'on a lu, bien sûr. Mais la parole de Dieu dit, la parole, la lettre tue, mais l'esprit est vie. Ma parole et l'esprit est vie. Donc c'est la révélation qui a pris nos cœurs, pas la lettre. Ça c'est important. Je le trouve très très important ce passage. Donc je continue, le frère Franck écrit, « Quand je repense à la façon dont l'esprit m'a guidé aux nombreuses fois, où les passages concordants de la parole m'ont été directement révélés, je suis alors rempli d'une profonde reconnaissance. Amen. Amen. Alléluia. Donc moi j'avais noté que c'était comme ça aussi pour toutes les autres personnes qui étaient sensibles à cet esprit. Donc sensibles au mouvement de l'Esprit Saint à cause de la révélation de l'époque de Laodicée. Un réveil, une restauration. Ce n'était pas comme à Azazastride qui était là circonscrit à cet endroit-là. Il est vrai qu'après il y a eu un mouvement qui était dans le monde entier, mais c'est pas la même chose. Tandis qu'ici, l'esprit touchait les cœurs. Ils étaient sensibles à l'esprit de révélation que Dieu devait donner pour pouvoir toucher ses fils et ses filles. Amen. Alléluia. Donc, ce n'était pas, frère Franck écrit, ce n'était pas des rêveries ni des imaginations pieuses, mais c'était une introduction fondamentale et concrète dans la parole, et par cela même, dans la volonté de Dieu, et finalement, dans tout le conseil du salut de Dieu, tel qu'il a été conçu de toute éternité, et qui arrive maintenant à son achèvement. Amen. Alléluia. L'amour pour la parole de Dieu a été éveillé en moi déjà dans la maison de mes parents, où la Bible reposait sur la table et n'en était enlevée qu'au repas. Aussitôt que l'un des six enfants que nous étions savait lire, il devait lire à haute voix deux versets lors des méditations quotidiennes, et cela à chacun son tour. Mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas nous tous qui avons eu ce privilège, mais Dieu a fait grâce au frère Franck, parce que Dieu a disposé toute chose parce qu'il connaissait à l'avance ce qu'il devait faire, ce qu'il voulait faire et avec qui il devait le faire. Donc le frère Franck il dit ici, mon père qui lui aussi était au service de la parole, a été pour moi un véritable ami et me fut d'un grand soutien à tout point de vue. Jusqu'au dernier jour de sa vie, je lui ai toujours témoigné le respect qui lui était dû, comme aussi tous ceux qui connaissaient ma mère pourront confirmer qu'elle était une femme ayant pris la place qui était la sienne. Comme on l'a lu jeudi, où la femme et l'homme doivent trouver leur place, leur juste position. Elle n'a jamais élevé la voix, jamais il n'y eut de dispute. Elle avait réellement la nature que toute femme ayant la crainte de Dieu, selon les Saintes Écritures, devrait avoir. Pour autant que je sache, je n'ai jamais manqué au quatrième commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Je ne me souviens pas une seule fois avoir traité mon père ou ma mère d'une façon inconvenante. Pour moi, ce qu'il disait avait valeur de commandement. Ce fut assurément le Seigneur qui me l'a mis à cœur et qui m'a fait la grâce de le pratiquer. De moi-même, je n'en aurais pas été capable. Voilà la chose. Voilà la prédestination. La formation. Il faut passer par une formation. Ça, il faut le reconnaître. C'est une prédestination, c'est une formation continue des âmes qui doivent servir, qui sont prédisposées à servir le Seigneur. Alors ici, un autre extrait de la lettre circulaire 33. C'est toujours la même lettre de janvier 1987. C'est toujours la même lettre 33 de janvier 1987. Des hommes de Dieu vécurent aussi bien des victoires que des défaites. Ils reçurent des éloges et des reproches. Cependant, tout ceci concourut à leur bien. Ils furent fortifiés et continuèrent leur chemin avec Dieu. De plus, ils n'avaient à répondre de leurs actes devant aucun homme, mais devant Dieu seul. Il y eut des hommes qui voulurent leur demander des comptes, tels les amis de Job. Cependant, ce n'était pas eux, mais Job qui avait raison. Vous connaissez tous l'histoire de Job. On connaît cette histoire avec ses amis. Les amis de Job, vous les connaissez. Mon frère Dieu, des amis importants. Mais vous connaissez tout cela. Donc, cependant, ce n'était pas eux, mais Job qui avait raison. Et il est vrai qu'il a été accusé. Mais après, Elihu lui a rappelé les choses. Mais néanmoins, c'était comme ça. Donc, on peut lire ça dans Hébreux 10, 33. C'est un passage que j'ai à cœur, Hébreux 10, 33, où ses serviteurs, ceux qui ont été appelés au service, Hébreux 10, 33, Hébreux 10, on va commencer au 32. Mais rappelez-vous dans votre mémoire les jours précédents dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance, soit en ce que vous avez été offert en spectacle par des opprobres et des afflictions, soit en ce que vous vous êtes associé à ceux qui ont été ainsi traités. Car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Ne rejetez donc pas loin votre confiance, car une grande récompense. Amen. Donc c'est important. Donc ça veut dire que le Seigneur savait, et tous les hommes de Dieu ont vécu des victoires et des défaites. Et je continue. Frère Franck écrit ici, donc Job qui avait raison, il dit « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'accablerez-vous de paroles ? Voilà 10 fois que vous m'avez outragé. Vous n'avez pas honte de m'étourdir ? Mais si vraiment j'ai erré, mon erreur demeure avec moi. » Ça c'est dans Job 19, 2, 1, 4. Ne ressort-il pas précisément de l'histoire de Job que toute la fureur de Satan s'est déchaînée contre lui? Ne ressort-il pas précisément de l'histoire de Job que toute la fureur de Satan s'est déchaînée contre lui? Donc c'est une épreuve que Dieu a mise sur lui, pour l'éprouver aussi, pour voir un peu, disons, son cœur, pour éprouver. On connaît tout cela. Et souvent, on y fait référence. Hein, quand, par exemple, il arrive quelque chose où on est un peu souffrant, hein, toutes ces choses. Hein. Donc ça, on comprend. Et là, on voit comment le Seigneur met à l'épreuve, malgré tout, ses enfants. Avec des hauts, des bas, il les met dans les épreuves. Mais une chose est certaine, et il faut toujours le reconnaître. Et faites bien attention à ça. Il n'y a pas une épreuve au-dessus de nos forces. Ça, c'est écrit. Juste. Et on est étant aussi certain, comme on l'a toujours dit, si Dieu a permis cette épreuve à cet homme, si Dieu permet des épreuves parmi les frères, parmi les sœurs, s'il y a des épreuves, il sait très bien qu'on peut supporter. Il sait très bien qu'on arrivera au fond du tunnel, au bout du tunnel, et qu'on verra la lumière. Pas seulement parce que c'est notre aide, mais parce qu'il a déterminé comme ça. Il a vu que nos cœurs ne peuvent pas défaillir. Et il a vu que nos cœurs resteraient fermes, malgré l'épreuve, malgré la difficulté. Nos cœurs ne renieraient jamais le Seigneur. Ni même Job. Job l'a jamais fait. Dieu a donné, Dieu a repris, remercié et loué sur le nom du Seigneur, de l'Éternel. Juste. Donc, Dieu sait. Dieu sait quand il met une épreuve, et sur qui il la met. Parce que lui, il est sûr de la victoire. Alléluia. Ça me donne la joie. Ça me donne l'assurance dans le cœur. Que tôt ou tard, la victoire est à nous. Alléluia. Donc je continue. Frère Franck avait écrit ici, il avait cité aussi Jacques 5, 11. Donc ne ressort-il pas précisément de l'histoire de Job que toute la fureur de Satan s'était déchaînée contre lui, et même sa femme ne lui conseilla-t-elle pas de mourir? Pour notre consolation, il nous a dit de regarder au dénouement que Dieu avait préparé à Job. Ça, c'est écrit dans Jacques 5, 11. Et ça, c'est ce qu'on va lire maintenant. Dans Jacques 11, Jacques 5, 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez, oui, parlé de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion miséricordieux. Et c'est vrai, on l'a toujours dit, il a toujours un prix à payer. À chaque fois qu'on dit, oui, Seigneur, je veux le faire, oui, je le veux, oui, 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 c'est comme ça. Alors là, voilà qu'arrive notre ami, parce que le Seigneur Jésus l'avait appelé mon ami. C'est vrai, il l'a dit, moi, au démon, là, mon ami, vous savez l'anecdote. Et donc, voilà. Le Seigneur soit glorifié. Il est merveilleux. Amen. Je continue la lecture. Donc, Frère Franck écrit ici. La colère du Seigneur, cependant, s'enflamma contre les amis qui lui avaient rendu la vie difficile. À la fin, Job dut intercéder en leur faveur. Sinon, c'est Dieu qui leur aurait réglé leur compte. Un serviteur du Seigneur se tient debout ou tombe pour son Seigneur et pour personne d'autre. Ni pour une femme, ni pour une famille, ni pour une communauté, seulement pour le Seigneur qu'il a pris à son service. Et ça, c'est vrai. Amen. Et souvent, on a fait des erreurs, et on fait encore des erreurs, parce qu'on n'est pas vraiment consacré et soumis à la parole de Dieu. Mais en réalité, c'est ça. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. 1 1 Corinthiens 4, 1. Voilà pourquoi c'est important, parce que quand Dieu prend quelqu'un, il lui appartient. On a vu beaucoup d'histoires, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, beaucoup de témoignages du frère Branham. On a vu tout ça. C'est comme ça. Donc je lis 1 Corinthiens 4, 1. Que tout homme pense ainsi à notre égard, qu'il nous tienne pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Ici, au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Mais il m'importe fort peu à moi que je sois jugé par vous, ou de jugement d'homme. Et même, je ne me juge pas moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience. Mais par là, toutefois, je ne suis pas justifié. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ainsi, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres, et qui manifestera les conseils des cœurs. Et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Vous voyez ? Romains 14, 4 aussi. Romains 14, 4. Romains 14, 4. Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui ? Il se tient debout ou il tombe pour son propre maître. Il sera tenu debout car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Donc en parlant de serviteur fidèle, c'est aussi comme ça. Donc on voit comment le Seigneur s'occupe lui-même de ces personnes que lui a choisies, qu'il a voulu qu'il le serve. Donc le frère Franck écrit: je suis convaincu du proche retour de Jésus-Christ et je crois à la prédestination de Dieu. Toutes choses ont été connues de lui. Ces dernières années, il fut rendu manifeste à quel point des esprits destructeurs peuvent prendre possession des gens. Ces esprits sont religieux et les gens pensent être moralement sans reproche. C'est pourquoi ils croient que c'est l'onction de l'esprit qui les inspire. Ils ressentent de la joie et un sentiment de ravissement après avoir causé des dégâts. Ils ne laissent pas venir en eux la pensée que quelque chose pourrait ne pas être en ordre. Ne sont-ils pas irréprochables? Et ne pensent-ils pas être sincères? Cependant, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne conduisent même pas une seule âme au Seigneur, mais qu'ils laissent plutôt derrière eux beaucoup d'âmes assassinées. Et ça, c'est vrai. Et c'est juste. Et c'est grave, ça. Ils laissent beaucoup d'âmes derrière eux assassinées. C'est toujours du blabla, du blabla, du blabla. Et ils pensent corriger les autres. Ils pensent mettre en ordre les autres et eux-mêmes, ils ne voient pas qu'ils ont besoin d'être vraiment corrigés, que Dieu vraiment fasse grâce. Donc, c'est important, ça. Voilà pourquoi le frère Franck a voulu mettre ça en évidence. Donc, il a imprimé, il a expliqué tout ça et vous allez voir plus tard pourquoi. Le frère Franck écrit: le moment est venu d'employer un langage clair et net. J'appartiens à ceux qui abandonnent tout au Seigneur et n'aiment dire que le moins possible de choses. C'est lui seul qui a le pouvoir de conduire les cœurs, de changer la situation et les hommes. On n'a pas besoin d'être particulièrement spirituel pour savoir que les choses du domaine privé doivent être réglées en privé. Donc, le temps est venu d'utiliser un langage clair et j'appartiens à ceux qui abandonnent tout au Seigneur et n'aiment dire que le moins de choses possible. C'est lui seul qui a le pouvoir de conduire le cœur, de changer la situation des hommes. Mes frères, mes sœurs, combien de fois on a voulu se mêler de choses, on a voulu régler des situations ou même essayer d'apporter à la foi quelqu'un, ou on a essayé de chercher à convertir quelqu'un à tout prix. Mais parce qu'il s'agit de cela ici, hein, mais c'est pas comme ça, vous voyez. Dans Zacharie 4, 5, lisons un peu de passage pour bien fixer la chose. Lisons un peu Zacharie. Zacharie. Zacharie 4, 6. Et il me répondit et il me parla, disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant. Donc il faut voir le contexte ici. Donc on voit la vision du chandelier d'or, etc. Les oliviers, on parle de Zorobabel. On voit aussi ça dans Agée, vous trouvez dans Agée. Donc voilà, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni par force, ni par puissance, ni par des armées, disons, ni par des puissances, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qu'es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Devant Zorobabel, tu seras, tu deviendras une plaine, et il fera sortir la pierre du fait avec des acclamations grâce, grâce sur elle. Il y a beaucoup de passages, mais juste ça encore. Psaume 147. Psaume 147. Psaume 147, 10. 11. On va commencer par le 11. Psaume 144. On parle de la puissance du cheval. Il ne se plaît pas de la puissance du cheval. Parce que c'est écrit. Le Seigneur agrée ce... C'est psaume 147, excusez-moi. Excusez-moi, c'est le psaume 147. Verset 10. Il ne trouve pas son plaisir en la force du cheval. Il ne se complaît pas aux jambes de l'homme. Le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Il faut que la foi soit appliquée. Sinon, c'est comme si on dit, oui Seigneur, fais-toi, moi je fais rien. Non, toi aussi. Mais c'est pas avec ta force, mais avec la promesse de Dieu qu'elle a faite. De croire que tout est possible. Alléluia. Et tu abandonnes tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. C'est pas par force ni par puissance, mais par mon esprit. Donc c'est important qu'il y ait cet abandon. Voilà pourquoi le frère Franck a écrit ici. Il dit, je fais partie de ceux qui abandonnent tout au Seigneur. Que Dieu nous aide à le faire. Avoir cette juste prise de position. De façon que la foi grandisse. Et quand la foi grandit, frères, sœurs, il y a aussi le désir qui grandit. D'aimer toujours plus le Seigneur, de lui obéir. Et c'est tout est ensemble, tout est lié ensemble. Donc il y a quelque chose de spécial dans le fait d'abandonner, le fait de croire. Voilà, je dis ça, la foi. Ce n'est pas une foi technique. Ce n'est pas une foi, une foi ecclésiastique, religieuse, sectaire, une foi de la secte. C'est une foi simplement qui croit et qui met en action ce qu'il croit. Ce qu'elle croit. Mais attention, aujourd'hui on peut dire, est-ce qu'il faut mettre un masque? Moi j'ai la foi, je ne mets pas de masque. Selon vous, c'est la foi juste ou une foi sectaire? Posez-vous la question. Il y a un autre verset qui dit que tu dois obéir aux autorités. Juste? Il y a aussi un autre passage. Comment est-ce qu'on doit concorder tout ça? Il y a un autre passage qui dit aussi de faire attention les uns aux autres, de prendre soin les uns des autres. Donc, la foi, elle est correcte, elle est vraiment mise en action dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Juste, comme ça. Elle ne doit pas être autrement. Sinon, si c'est autrement, alors c'est une foi qui n'est pas mûre par Dieu. C'est une foi qui monte, qui descend selon le temps, selon les saisons, les situations. Vous voyez? C'est pas comme ça que ça doit aller. Ça ne peut pas aller comme ça. Alléluia. Donc ça, c'est important. Donc, frère Franck écrit, c'est lui seul qui a le pouvoir de conduire les cœurs. C'est lui seul qui a le pouvoir de conduire les cœurs. Vous y croyez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand vous voyez un enfant ou une fille rebelle, quand vous voyez une personne rebelle, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous voulez le frapper avec un bâton? Moi, je frapperai à coups de prière. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous va, ça? Moi, je donnerai des coups de prière. Un coup de prière ici, un coup de prière là. Et au nom de Jésus-Christ, Seigneur, soumets-le à toi ou soumets-la à toi. Stop. Et c'est comme ça que ça doit être. On ne peut pas faire autrement. Parce qu'il y a des gens rebelles. Il y a des gens qui sont influencés, qui n'acceptent pas, qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas. Donc l'unique chose, l'arme puissante que nous avons, c'est la foi dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est une bénédiction, mes amis. Plus on va de l'avant, et plus on voit que Dieu a toujours raison, plus on va de l'avant, plus on peut voir manifeste ta foi, ma foi, nos fois, on peut la voir manifeste, manifestée. Parce que ce que on croit sincèrement de tout notre cœur, on le voit devant nous s'accomplir. Vous y croyez? Amen. Alléluia. C'est comme ça. Et c'est important, mes amis. Moi, je le crois vraiment de tout mon cœur. Voilà pourquoi il doit vraiment y avoir quelque chose de stable, quelque chose de vrai, fondé sur la promesse de Dieu. Sur la promesse de Dieu. Amen. Yeah. Bon, je dis simplement ça. Quand Lot est sorti avec sa femme et ses enfants, comment est-ce que Lot pouvait être attentif à tout prix? Comment est-ce qu'il pouvait toujours faire attention à sa femme? Non, il ne pouvait pas toujours le faire. Donc la femme a suivi son destin. Vous avez compris ça. Et ça, c'est vrai. Elle a suivi son propre destin. Donc c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Mais il y a d'autres exemples. Vous voyez? Et vous le voyez vous-même. Voilà pourquoi il faut vraiment se confier dans l'Éternel et abandonner toute chose dans la main du Seigneur. C'est notre arme puissante. C'est la prière. Je continue. Le frère Franck écrit. Donc, on n'a pas besoin d'être particulièrement intelligent pour savoir que les choses qui se passent au sein du couple ne peuvent être réglées. Donc, on n'a pas besoin d'être particulièrement spirituel pour savoir que les choses du domaine privé doivent être réglées en privé. On n'a pas besoin d'être particulièrement intelligent pour savoir que les choses qui se passent au sein du couple ne peuvent être réglées que par le couple même. Donc, il y a d'autres passages de Corinthiens aussi. Qu'il faut juger ceux de la maison d'abord. Donc ici, le frère Franck qui parle de choses privées, personnelles, où on dit laissons-les faire, voyez un peu la chose. Vous voyez? Donc chacun sait aussi que les problèmes d'ordre familial sont à régler au sein de la famille. Là aussi, voilà, ça existe. Il doit être tout aussi clair que les affaires de la communauté n'appartiennent pas au domaine public, mais doivent être réglées là où elles prennent naissance. 1 Corinthiens 6, etc. Vous connaissez toute l'histoire. On l'a déjà lu. Et frère Franck en a déjà parlé. Donc, c'est la circulaire. De la fois passée, on a parlé de cela. Donc, c'est nécessaire que quand... que ce soit le couple, il y a des anciens, les anciens parlent, etc. Voilà. Que dit l'Écriture? C'est comme ça. Hop, fini. Voilà. Donc, et l'Écriture met les choses en place. Ce n'est pas des blabla, ou des sentiments personnels, ou une exhortation morale, ou la morale. Non, non, c'est la parole de Dieu qui met toutes les choses en place, c'est tout. Et les croyants se soumis à la parole, soumis à l'esprit, voilà, et tout se fait bien, amen, et tout est juste. Et ils reprennent la bonne direction. Donc, il doit être tout aussi clair que les affaires de la communauté n'appartiennent pas au domaine public, mais doivent être réglées là où elles prennent naissance. Celui qui n'observe pas le B.A.B.A., donc les bases de ce comportement, n'a rien compris aux choses les plus élémentaires. Cependant, nous vivons à l'époque des scandales, et même l'Église ne demeure pas, elle non plus, à l'abri de l'esprit de ce siècle. Ça, c'est vrai, et ça, c'est réel. Parce que, tôt ou tard, l'Église, quand on parle de l'Église de Dieu, on parle que Dieu a formé de sa volonté, elle sera toujours mise à l'épreuve, toujours éprouvée pour voir si elle résiste aux attaques. Et je crois que nous, les frères, donc je peux faire appel à votre mémoire, nous aussi, on a dû affronter, moi pendant mon chemin, mais, et puis après avec ce petit groupe hein, ici, dans cette ville, d'abord à Galalarat, et puis à Sombalabardo, nous aussi on a dû affronter beaucoup de situations difficiles, juste des situations où la vie de la communauté était mise à risque, disons, était mise au défi. Mais Dieu nous a fait la grâce de s'élever au-dessus de tout cela. Et je donne gloire à Dieu qui nous a donné la force de le faire. Donc, Fafran continue. Après que tant de choses aient été claironnées à tout vent, de vive voix ou par écrit, il ne me reste pas d'autre choix qu'à en venir courtement à citer quelques événements, même si plusieurs parmi nous auront de la peine à admettre complètement le cours de certains d'entre eux. En me taisant plus longtemps, je me rendrai coupable. Maintenant ici, le frère Franck qui parle des années 74, 76, 79, disons, de 76 à 79 plus ou moins. Là où il y a eu tous ces problèmes qui ont attaqué Krefeld. Donc ici, il rentre dans ce sujet. Après que tant de choses, comme déjà mentionné, chaque être humain, depuis Adam et Ève, est exposé à deux influences différentes. Comme déjà mentionné, chaque être humain, depuis Adam et Ève, est exposé à deux influences différentes. C'est aussi pourquoi nous devons éprouver toute chose par la parole de Dieu. Là, il y aura beaucoup à dire. Mais voilà, on est déjà passé par là. Il y a toujours un bon et un méchant. Le bon, on sait que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel. Et le méchant, c'est le diable, sa pensée. Et on sait qu'il y a la bonne influence et la mauvaise influence. Et on va ici, on va rentrer ici dedans. Donc on est toujours en train d'entrer de plus en profondeur dans la sainteté et de la juste révélation pour pouvoir être immunisé de cette mauvaise influence et de maintenir l'assurance de la bonne influence. Vous y êtes, vous comprenez? Être sous la bonne influence, parce qu'autrement, on serait vraiment retourné et on n'arriverait pas à retourner comme une crêpe sans arriver à l'objectif final. Donc je continue, le frère Franck a écrit: en croyant ce qu'Ève disait et en faisant ce qu'elle exigeait, Adam tomba sous l'autorité de Satan. On voit ça dans la Genèse. Mais écrit, vous pouvez le noter. Donc, elle est tombée d'abord sous l'influence et ensuite elle exigeait d'Adam, voilà, viens, et voilà. Et Adam, alors, est tombé sous l'autorité de Satan. Le Seigneur avait parlé à Adam. Satan, le serpent ancien, s'approcha d'Ève et la séduisit. Ensuite, elle dupa Adam, elle trompa Adam. Ce que Dieu a dit, tu mangeras de tous les fruits du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, tu ne l'as pas dit à Ève, mais à Adam. Genèse 2,15. Donc il a dit à Adam, pas à Ève. Voyez ? Donc Adam était tranquille. Adam était tranquille. Donc il savait très bien qu'il ne devait pas manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia, voyez. Et donc, Adam tomba sous l'autorité de Satan. Le Seigneur avait parlé à Adam. Satan, le serpent ancien, s'approcha d'Ève et la séduisit. Ensuite, elle dupa Adam. Elle trompa Adam. C'est ce que Paul avait devant les yeux lorsqu'il interdit aux femmes d'enseigner la parole et de prendre l'autorité sur l'homme. 1 Timothée 2, 11 à 14. Et on peut comprendre, frère Franck, parfaitement. C'est comme chaque homme, chaque famille. Donc, on comprend tous cette chose-là. C'est, frère Franck écrit, c'est parce qu'il est. Donc, d'abord, 1 Timothée 2, 11 à 14. On l'a lu. C'est parce qu'il est simplement à craindre. C'est parce qu'on craint, il est simplement à craindre qu'elle ne tombe plus facilement sous une fausse influence. Que Paul écrivit le sévère avertissement de 1 Corinthiens 14, 34 à 36. Que vos femmes se taisent dans les assemblées. L'apôtre avait sur ce point le « ainsi dit le Seigneur ». Il renforce ce qu'il vient de dire par la parole suivante. Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Verset 37. Aujourd'hui, c'est le contraire. Des femmes qui se croient spirituelles se moquent d'une telle parole. Quel genre d'onction se trouve alors sur elles? Chaque croyant doit admettre qu'il s'est trompé à maintes reprises, qu'il a mal jugé ou mal ordonné certaines choses. Et c'est vrai, ça c'est réel. Que Dieu nous fasse grâce de faire un examen de conscience. Donc chaque croyant doit admettre qu'il s'est trompé à maintes reprises, qu'il a mal jugé ou mal ordonné certaines choses. Comme frère Branham le soulignait, il existe toujours chez les personnes où les dons se manifestent, le danger d'une fausse inspiration. Les intéressés n'y peuvent rien. Donc ils reçoivent cette onction, une fausse inspiration. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons être vigilants. Cependant, à la fin, en dernier ressort, il ne s'agit pas uniquement de cela. Il s'agit de gens qui volontairement professent leurs propres idées. Celles qu'ils ont eux-mêmes arrangées. Parce que Donc j'ai souligné, j'ai noté ceci. Naturellement, ce problème existe parmi les hommes. Le fait de vouloir à tout prix être mis en avant, être inspiré, etc. Le frère Branham disait ceci. Étant donné qu'ils ne peuvent pas prêcher, alors ils le font d'une autre manière. Et c'est vrai, ils le font d'une autre manière. Ils le font sous... Bon, je parle de ceux qui parlent en langue aussi, on va s'en parler de ces choses-là. Donc, étant donné qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils se mettent en avant comme ça. Et voilà la tactique du diable, terrible. La tactique du diable. Et beaucoup, surtout dans les dénominations, sont tombés dedans. Et c'est vrai, et beaucoup aussi, dans le message aussi, sont tombés dedans. Donc, et comment il faut être attentif, vigilant, être de ceux qui réellement s'appuient seulement sur la parole de Dieu. Seulement sur la parole de Dieu. Et même s'ils ne comprennent pas directement, mais qu'ils cherchent la face du Seigneur pour comprendre à travers la parole de Dieu si c'est vrai ou si c'est faux. Alléluia. C'est important. Je continue à lire ici. Il s'agit de gens qui volontairement professent leurs propres idées, celles qu'ils ont eux-mêmes arrangées. Dans leur présomption, ils croient avoir saisi, dans leur pensée, la volonté de Dieu et désirent aider le Seigneur. Ils savent qu'il s'agit de leur propre pensée. Cependant, ils l'exposent comme étant ainsi dit le Seigneur. Il n'y a pas de délit plus grave vis-à-vis de l'Église du Dieu vivant. Au jour du jugement, je ne voudrais pas me tenir à la place d'une telle personne qui, de propos délibéré, a menti au peuple de Dieu. C'est grave cette situation. Et dans les années passées, voilà pourquoi le message a mis toute chose à sa place. Quelle merveille, quelle gloire que Dieu nous a donnée, quelle grâce de mettre toute chose. Dieu a révélé des choses de telle manière, de manière que l'homme ne tombe plus dans les mêmes tentations, mais qu'il se prépare, qu'il devient parfait, comme Dieu, comme notre Père est parfait, comme le Seigneur nous l'a dit dans ses promesses. Comme c'est important. Amen. Donc, ils savent qu'il s'agit de leur propre pensée. Cependant, ils l'exposent comme étant ainsi du Seigneur. Donc, en dessous, Frère Branham dit qu'on lui a souvent demandé d'enseigner aux gens comment ils peuvent recevoir des dons de l'Esprit. Mais pour ceux qui veulent mettre les dons en action, il est nécessaire de recevoir l'instruction biblique approfondie sur leur utilisation afin de pouvoir mettre en pratique ces choses. En premier lieu, tous doivent reconnaître que dans le Nouveau Testament, il n'y a ni prophétesse, ni femme apôtre, ni femme évangéliste, ni femme docteur ou pasteur, ou femme pasteur. Ces fonctions n'existent pas au féminin. Pour les sœurs, il n'y a que la possibilité de manifester le don de prophétie, le parler en langue et l'interprétation. Ces trois dons doivent être éprouvés avant qu'ils puissent être acceptés. Ce sont des dons d'inspiration. Alléluia. Des dons d'inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? On va lire quelques passages des Écritures. 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. On va lire quelques passages pour parler de l'inspiration. Faites bien attention à ça. 2 Timothée 3, 16. On va d'abord lire cela. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous y êtes? Vous avez tout ce passage. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'était ceci de Pierre 1, 9 aussi. Que toute l'écriture est inspirée. Juste, lisons. Lisons aussi 2 Pierre 1. Des passages importants. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, ou ne fait l'objet d'une interprétation particulière, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés, inspirés par l'Esprit Saint. Inspirés, poussés par l'Esprit Saint. Amen. Donc cette parole, inspirée, l'inspiration c'est important. Qui peut entrer? Qui est soumis à la juste inspiration? Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16. Quand Jésus a dit, mais qui dites-vous que je suis, quand il a parlé aux disciples? Et Pierre, sans réfléchir, faites bien attention à ce que je dis, sans réfléchir, sous l'impulsion d'une certaine, d'une vraie inspiration, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Comment est-ce qu'elle est venue? Vous voyez que c'est important. C'est pas qu'il a pensé d'abord, c'est pas qu'il a réalisé ou qu'il savait bien. Il n'était pas encore converti, disons. Donc il suivait le Seigneur simplement. Il suivait le Seigneur. Mais hop, voilà. Il y a l'inspiration qui est venue directement. Vous voyez comment est venue l'inspiration, une vraie inspiration là. Alléluia. Donc c'est important de comprendre. Donc le frère Franck a écrit ce sont des dons d'inspiration, qu'on puisse approfondir cela et chercher le Seigneur et de s'identifier vraiment dans sa volonté, dans son plan, que ce soit pour la prédication, etc. Voilà pourquoi il y a l'onction pour la prédication, on l'a toujours dit. Il y a l'onction pour chasser les démons, il doit y avoir une inspiration aussi pour guérir le malade. Ce sont des dons, mais ce sont aussi des inspirations, vous comprenez? Bon, je m'arrête ici, voilà. Un autre passage, 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. À partir du premier verset. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser. Bouleverser, ou en italien remuer, balancer, dans vos pensées, ni troublé, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là, que personne ne vous séduise en aucune manière, etc., etc. Donc il est bien écrit, ne pas être troublé par l'esprit. Donc, ni par esprit, ni par respiration. Donc, il y a d'autres traductions, mais c'est pour comprendre quoi. C'est pour comprendre ce que c'est, les dons d'inspiration, vous voyez. J'aimerais parler de cela, mais bon, le temps passe. Mais peut-être une autre fois, Dieu voulant. Dieu permettra de rentrer dans ces sujets. Voilà pourquoi le frère Franck a écrit que ces trois dons doivent être éprouvés avant qu'ils puissent être acceptés. Ce sont des dons d'inspiration. Et un peu avant, il écrit, mais pour ceux qui veulent mettre les dons en action, il est nécessaire de recevoir l'instruction biblique approfondie sur leur utilisation, afin de pouvoir mettre en pratique ces choses. Donc il faut vraiment une instruction du Saint-Esprit, de la parole. Et l'obéissance, la consécration. J'avais dit souvent, frère Branham avait dit souvent, ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, parlent avec les autres frères. Bon, il y a des frères là, il les prend à parté, ils prient ensemble. Vous voyez, ils analysent la chose ensemble. Vous rappelez de tout ça? Ils se mettent un peu de côté comme ça, pour avoir une prière à part. Donc je continue ici. Le frère Franck écrit, dans le Nouveau Testament, il n'est question que d'une seule femme qui se disait prophétesse. Apocalypse 2, 20. Et elle fut comparée à Jézabel. Elle se prétendait enseignante et se trouvait ainsi en contradiction avec les prescriptions données à l'Église du Nouveau Testament. Donc, Paul a écrit, je ne permets pas la femme d'enseigner, etc. Une femme n'a pas le droit de prendre en main la Bible pour enseigner quelqu'un. Donc, ça, pas besoin de commenter cela. Et combien de fois on a vu? Même des frères de message. Quand on voyageait, on voyait des choses vraiment qui étaient hors parole. Quand des hommes se tiennent tranquilles et se laissent enseigner par une femme, ils se trouvent déjà dans le domaine d'influence de Satan. Il est dit de Jézabel, la femme d'Akab, qu'elle s'était adonnée aux enchantements. 2 Rois 9, 22. Paul écrit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé, qui vous a embobiné, disons. De fausses prophéties ont le même effet que la divination et la sorcellerie. Sans en être conscient, les gens tombent sous un ensorcellement. Donc des incantations, enchantements, ensorcellements. Et ne peuvent être libérés qu'après l'avoir reconnu et qu'il s'est demandé que l'on prie pour eux. Voilà. Donc, elles ne peuvent être libérées. Ces gens-là ne peuvent être libérés qu'après l'avoir reconnu et qu'ils aient demandé que l'on prie pour eux. Ça, c'est important. Ce que fait l'Église catholique romaine, bon, c'est pas écrit, c'est moi qui le dis. Hein. Donc, en faisant croire que le vin devient vraiment du sang et que le pain devient vraiment le corps du Christ, physiquement. C'est de la sorcellerie complète, complètement. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Ici, on le voit clairement, mais spirituellement, dans une fausse prophétie, dans un désordre, dans l'Église, des choses qui ne sont pas en ordre, qui ne sont pas dans leur plus juste place, c'est la même chose. C'est la même chose, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alors maintenant, voilà, on a encore le temps. Alors, on va commencer. Donc, je continue ici. Donc, c'est maintenant, c'est la continuité, c'est l'explication que le frère Franck apporte de ce qui s'est passé. Le titre, ici, c'est « Une parole toute puissante ». Il m'est très pénible d'écrire. Il m'est très pénible d'écrire sur l'événement suivant. Et pourtant, je n'ai pas le choix. Le 16 juin 1979, je me trouvais sur l'île de Fano, au Danemark, après tout ce qui s'était passé depuis le début de mai. Donc, de 76 à 79, en somme. Donc, cette époque, ce qui s'est passé là-bas, pour lui, ça a été vraiment le bouleversement total. Vraiment quelque chose qui l'a vraiment remué, qui l'a secoué. Comme avec le frère Branham aussi. Naturellement, parfois, il faut tomber là dans ces trappes, dans ces pièges, parce qu'il faut apprendre. Bon, voilà, on va en parler plus tard. Mais voilà. Le frère Franck va nous donner l'explication un peu plus loin. Après tout ce qui s'était passé depuis le début de mai, la vie n'avait pour moi plus aucun sens. Personne ne peut se rendre compte de ce qu'il advient d'un homme ayant reçu une tâche de Dieu, mais qui ne voit plus aucune possibilité de l'exécuter. Juste avant le lever du jour, j'allais à la rencontre de la marée montante pour mettre fin à mes jours. Je rendis grâce au Seigneur de m'avoir accordé le privilège de le servir et le prier de m'accorder, de me pardonner tout ce qui n'avait pas été juste devant lui et de me prendre à lui dans sa grâce. Dans mon désespoir, je lui criai, « Seigneur, avant que je n'aille à toi maintenant, dis-moi pourquoi. Dis-moi donc pourquoi tout ceci m'est tombé dessus. » À ce moment même, un très fort coup de tonnerre retentit à droite au-dessus de moi, comme on l'entend très rarement dans un orage particulièrement violent. Cependant, ce n'était pas un orage. Ce n'était pas un coup de tonnerre de longue durée, mais bien plutôt un seul et subit coup de tonnerre qui s'arrêta juste à quelques mètres au-dessus de moi. Je pensais être frappé par cela. De ce coup de tonnerre sortit la voix du Seigneur avec un ton de commandement courroucé. « C'est parce que tu as écouté la voix de ta femme. » Genèse, vous voyez ?« C'est parce que tu as écouté la voix de ta femme. » La fin du tonnerre était en même temps le début des paroles du Seigneur. Vous voyez? Donc, la fin du tonnerre est en même temps le début des paroles du Seigneur. C'est cette parole que le Seigneur a prononcée. C'est parce que tu as écouté la voix de ta femme. La, La fin du tonnerre est en même temps le début de ces paroles du Seigneur. Je tombai sur le côté gauche, puis je me relevai et regagnai le rivage. Lorsque je me retrouvai dans ma mansarde, je me jetai sur le sol, ouvris ma Bible et lus, jusqu'à ce que j'arrive au verset 17 de Genèse 3, dans lequel il est écrit « Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. » Je confirme volontairement cet événement par les paroles « Aussi vrai que Dieu est vivant. » Et par « Ainsi a dit le Seigneur. » Ce que quelqu'un pense ou dit à ce sujet, il aura à en rendre compte au jour du jugement. J'en appelle à Dieu même comme étant mon témoin. Donc nous tous, on croit, on a cru et on continue à croire. On a déjà cru et on croit encore maintenant. Celui qui connaît l'histoire de la vie de Frère Branham sait que lui aussi, dans une période de profond désespoir, avait voulu se prendre la vie. Il tint le pistolet chargé contre sa tempe et tira. Mais le coup ne partit pas. Puis il le jeta ensuite en l'air et le coup partit tout seul. Je voulais me laisser prendre la vie car je n'avais pas le courage de me l'enlever moi-même. Donc il a été dans la marée, ne sachant pas peut-être nager, là il se serait noyé. Donc là, il se serait noyé. Ceux qui sont au courant des choses qui se sont passées dans les années 76 à 79, 76 à 79, connaissent les multiples prophéties qui ont été données durant ce temps. Nous avions tous l'impression que Dieu parlait, car pendant de nombreuses années, ces prophéties se réalisèrent à 100%. Donc c'était la période que moi aussi, Dieu m'a fait grâce d'être témoin. Il y avait une grande bénédiction. L'Esprit de Dieu était vraiment évident que, je répète, on allait tous à l'autel, carrément spontanément. Frère Franck nous appelait, on était tous là ensemble. Et je crois qu'il n'y avait personne qui ne pleurait pas. Tout le monde pleurait, même Frère Franck. Chaque fois qu'on était là, il y avait la même chose. On sentait la présence de Dieu de telle manière que ça nous prenait le cœur comme si on étouffait, comme s'il y avait une pression sur nous qui venait. Et les larmes coulaient en abondance. Et Dieu était là, parmi nous. Et la parole venait, était là. Tout ça, on l'a vécu. Et ça a été une grande bénédiction pour ceux qui ont vécu cette période-là. On ne peut jamais oublier ça. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Et je dis comme témoignage. Et ça a continué tout au début. Tout au début, pendant un mois entier, ça a continué. La visitation du Seigneur, ça a continué pendant un mois, pour vous dire. Donc je pouvais vraiment sentir l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu. Donc ceux qui sont au courant des choses qui se sont passées dans les années 76 et 79 connaissent les multiples prophéties qui ont été données durant ce temps. Nous avions tous l'impression que Dieu parlait, car pendant de nombreuses années, ces prophéties se réalisèrent à 100%. Et je partais du principe que c'était le Seigneur qui, par une bouche humaine, nous donnait ses directives. Et cette bouche humaine, c'était la femme du frère Franck. Afin que tous comprennent pourquoi le Seigneur me fit ce terrible reproche, il est nécessaire de donner ici quelques explications. Dans la prophétie du 5 juin 1976, il fut dit « Voici ainsi parle le Seigneur, mon serviteur. En vérité, je t'ai placé dans une grande œuvre, et j'ai vu ta fidélité et ton travail. » Et vois, aujourd'hui, consacre-moi, frère K et sœur R, pour le ministère, car le temps est venu où ils doivent être installés. Trois petits points. Donc le frère Franck dit, j'ai suivi cette instruction et j'ai immédiatement consacré le couple sur place en leur imposant les mains. Comme la première partie de la prophétie correspondait à la vérité, que beaucoup de gens devaient venir, etc., je donnais dans le panneau de la seconde. Donc la première partie, c'était là où toutes les personnes devaient venir, c'est juste la grande œuvre, mais la deuxième partie, il est tombé dans le piège. Même lorsqu'en 1978, le Seigneur me fit remarquer un samedi matin à 11h, d'une voix audible, que cette prophétie n'était pas biblique. Je ne compris encore pas la situation tout entière. Donc, voyez. Donc, je retourne en arrière. Hein. Je retourne tout au commencement de la lettre de janvier 1983, lettre circulaire 33, donc, où le frère Franck a écrit « Des hommes de Dieu vécurent aussi bien des victoires que des défaites. Ils reçurent des éloges et des reproches. » Vous y êtes. Néanmoins, donc, cet homme est le serviteur fidèle et prudent que nous tous nous avons reconnu. Parce que lui aussi, frère Franck, comme nous tous, comme tout le monde, parfois on ne comprend pas les choses vite, subitement, et les choses continuent dans le temps, et alors les pièges, les trappes, les pièges viennent devant nous, et de manière inconsciente, de l'amour de Dieu, pensant que Dieu est là, que c'est Dieu qui fait tranquillement les choses, pensant que le Seigneur est en train d'opérer, on voit que l'amour là est erroné, il y a des erreurs dans cet amour-là. Donc, je vais d'abord continuer ici, ce que frère Franck écrit. Même lorsqu'en 1978, le Seigneur me fit remarquer un samedi matin à 11h, d'une voix audible, que cette prophétie n'était pas biblique, je ne compris encore pas la situation tout entière. Je me trouvais dans mon bureau lorsque j'entendis soudain les paroles suivantes. Mon serviteur sont des actes des apôtres et regarde si aucun homme avec sa femme aurait jamais été consacré au ministère. Je me tournai à droite, pris ma Bible et lus dans les actes des apôtres. Déjà après quelques minutes, je compris qu'il ne s'était jamais présenté un tel cas. Donc, je mets cette petite parenthèse. Quand le Seigneur m'a appelé, donc il y avait un endroit en Suisse qui s'appelait Sainte-Croix. Naturellement, il y avait ma femme qui était là, il y avait ma fille, mes filles, Janina. Bon, néanmoins, je suis parfaitement conscient que Dieu m'avait parlé. Dieu m'a parlé. Je le vous dis clairement devant Dieu, c'est un témoignage. C'est le lieu dit qui était comme ça. Et les choses se sont développées, les choses se sont prolongées comme ça. Donc je voulais simplement vous dire cela. Donc le frère Franck ici continue. Je me tournais à droite, pris ma Bible et lu dans les actes des apôtres que c'est pas possible. Alors, lorsque j'en parlais à ma femme, elle me dit, faites bien attention à ça. Je ne sais pas si vous suivez bien. Je crois que oui. Regardez comment la femme a répondu. Lorsque j'en parlais à ma femme, elle me dit, mais non, K n'a pas du tout été appelé à prêcher, mais le ainsi du Seigneur avait été prononcé devant l'église, que ce frère K et cette sœur R devaient être mis au service du Seigneur, pour la prédication, c'est-à-dire au ministère, au service. Et alors, il y a les mains qui ont été imposées pour le ministère, comme le frère Branham l'a fait avec d'autres frères, ou de temps en temps quand le frère Franck le fait pour certaines personnes qui doivent partir, même dans la prédication J'accuse cette génération, le frère Branham l'a fait aussi. Donc là, aussi il y avait Coleman, il y avait Milan, enfin, donc le frère Branham a aussi imposé les mains pour les envoyer à prêcher, pas que Donc, il a prié pour leur ministère afin que le ministère qui vienne. Non, non, pas pour ça, pas pour ça. Ils étaient déjà prédisposés à prêcher. Il a simplement accompagné dans la prière, exactement comme dans les Actes des Apôtres, chapitre 13. Donc voilà, c'est important à savoir. Alors écoutez bien. Lorsque j'en parlais à ma femme, elle me dit, mais non, K n'a pas du tout été appelé à prêcher. Qu'il mette donc ses bottes de caoutchouc et travaille sur le terrain de la mission. Vous vous rendez compte, vous comprenez? Terrible, hein? Qu'il aille travailler sur le terrain de la mission. Et quant à la sœur R, elle devrait aller au bureau. Mais la femme, l'épouse, là, avait déjà pris en main toute l'église. Et c'est vrai. Elle était déjà en train de diriger les situations. Elle dirigeait déjà tout, quoi, d'une certaine manière. Sans même lire ou sans même parler. Elle a dit, ainsi dit le Seigneur, toi tu fais ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Gloire à Dieu. Donc, la femme répond, qu'il mette donc ses bottes de caoutchouc et travaille sur le terrain de la mission. Et quant à la sœur R, elle devrait aller aider au bureau. Et le frère Franck écrit, qu'est-ce que donc que des bottes de caoutchouc et un travail de bureau ont à faire avec l'établissement dans un ministère? Cette tromperie, simplement issue de considérations humaines, avait été proclamée devant toute l'assemblée comme ainsi dit le Seigneur. Bien plus tard seulement, ma femme admit en ma présence, en voyant le frère R et la sœur K entrer dans la salle, il m'est venu à l'idée que... Qu'est-ce que les pensées humaines peuvent bien avoir de commun avec les pensées de Dieu? N'est-il pas écrit dans Isaïe 55, 8 et 9, « Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alléluia. On s'arrête ici un instant. On s'arrête ici. Il est 21h30. Donc, vous êtes entré pleinement dans ce qui s'est passé à Krefeld. Et dans ce que a subi le frère Franck. Disons, pendant cette épreuve dans son ministère. Quand il a commencé à servir le Seigneur, etc. C'est-à-dire quand il était déjà bien avancé, disons. C'est pour ça que il est vrai que dans la première partie, il y a des gens qui devaient venir, doit y avoir le terrain, etc., etc. Mais dans une deuxième partie de la prophétie, il est tombé dedans, dans le piège, sans s'en rendre compte. Mais bon, je dis ceci, et puis je m'arrête. Donc il y a toujours deux influences, une bonne et une mauvaise. N'est-ce pas? C'est vrai, amen. Personne n'est immunisé directement. Disons que maintenant, l'immunité, il y a le vaccin pour le Covid, mais notre immunité à nous, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Vrai, n'est-ce pas? Amen. L'immunité. Être dans la sécurité. Se mettre derrière la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui parle avec nous pour savoir si ça c'est juste ou ça c'est faux. Parce que des fois on prend tout pour content, et des fois l'influence ça vient de l'extérieur. Regardez comme c'est important. C'est important cette chose. Je le dis dans l'humilité. Parce que il y a les frères, donc il y a toute l'église qui peut être influencée parce qu'ils préfèrent d'écouter des sœurs au lieu d'avoir un contact personnel, une communion directe avec Dieu personnellement, d'écouter personnellement le Seigneur. Vous voyez les influences de cette parole, de cette phrase-là, parce que tu as écouté la voix de ta femme ou parce que tu écoutes l'église. Vous voyez, des fois on est influencé. On est influencé par l'un, on est influencé par l'autre, mais Dieu doit faire grâce d'écouter seulement notre Seigneur, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Ça, c'est une leçon pour nous tous. On le sait, mais on s'en approche toujours plus profondément. Je le dis de tout mon cœur. Et pourtant, encore maintenant, on fait des choses tellement infantiles. Je le dis devant Dieu, dans la simplicité. Des fois, on fait encore des choses si infantiles. Mais en somme, c'est toutes ces années. Elles ont servi à quoi? Vous voyez? Faisons attention, mes amis. Réfugions-nous en Christ et croyons qu'il est le seul. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, seulement le Seigneur. Donc voilà, c'est le moment maintenant de mettre en action la parole de Dieu. Vous y croyez? Amen. C'est le moment maintenant. C'est le moment d'entrer pleinement et dire, Seigneur, ou c'est toi ou c'est la mort. Ou toi ou la mort. Il faut aller jusqu'au bout, à fond, résister au diable. Résister à toutes ces attaques, toutes ces influences mauvaises. Et il y en a beaucoup. Surtout, maintenant plus que jamais, il y en a beaucoup. Alléluia. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, pauvre, misérable, qui pourra me sauver de ce corps de mort, n'est-ce pas? C'est vrai. Amen. Et pourtant, la réponse est là. Le Seigneur donne et a donné la réponse. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ce n'est plus la chair, ni le sang, mais Christ, la parole. Je lis ça encore. Je voudrais terminer avec ceci. On lit souvent ce passage, mais c'est important. Ça a une importance capitale. Vous voyez, c'est dans 1 Corinthiens. Corinthiens 8. Excusez-moi, c'est Romains 8, pardon. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie, dans le Christ Jésus, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que Dieu me donne toujours la force pour surmonter cette ultime bataille, la dernière bataille, n'est-ce pas? Vous croyez que le Covid est en train de mettre à l'épreuve beaucoup de personnes? Oui, oui. Ce Covid met à l'épreuve beaucoup de personnes, que ce soit dans la patience, dans l'immunité. Je ne parle pas que de l'immunité physique du corps, je parle de l'immunité spirituelle. Hein. C'est comme s'ils se laissaient aller, c'est comme si les frères se laissaient aller, c'est terminé. On dirait que leur vigilance est arrivée à zéro. On dirait qu'il n'y a plus de vigilance. Et pourtant, Dieu est le gardien de nos vies. N'est-ce pas? Amen. Juste. Alléluia. Dieu nous fasse grâce. À lui soit toute la gloire, l'honneur, la puissance. Amen. Gloire, honneur et puissance à Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous donne ce qui est nécessaire. Il y a des beaux jours qui arrivent maintenant. Les beaux jours arrivent maintenant. Le début a été glorieux. Maintenant, la fin doit aussi être glorieux, comme la première fois. Si ces jours-là, à Krefeld, on a touché de nos mains, années 76, 77, 79, 74. Donc le Seigneur m'a appelé en 72, 72. On a touché de nos mains ces jours-là, mes amis. Est-ce que ces jours-là ne devraient pas encore être là? Est-ce qu'il ne devrait pas encore y avoir un rafraîchissement de ces choses, un rétablissement, où le Saint-Esprit reviendra encore sur les gens, dans le cœur, avec une vraie onction, avec une vraie prise de position pour le Seigneur, où lui-même peut déverser ses bénédictions, son esprit? Moi, je crois que oui. Et voilà pourquoi on est en train d'attendre ça. On est en train de l'attendre. Amen. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Nous allons prier le Seigneur. On va se voir dimanche, Dieu voulant. Nous allons l'invoquer, le remercier. Encore. Parce que encore ce soir, il nous a donné la nourriture pour nos âmes. Et il ne fait jamais manquer de cette nourriture. Il nous donne toujours la force et la foi nécessaires. Alléluia. Qui désire remercier le Seigneur? 1, 2, 3, tout le monde. Donc je sais que les frères doivent travailler demain. Jérémie nous a laissé déjà. Nous allons prier le Seigneur. Inclinons nos têtes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire, l'honneur, Père Céleste. Merci pour ta bonté, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta patience que tu uses envers ton peuple, en nous donnant donne-nous toujours la force. Car est la foi forte qui vient de ton écoute, de la parole. Fortifie-nous, Seigneur. Que tu puisses aussi déverser dans l'Église abondamment ton esprit, les dons, que tout soit manifesté, que soient manifestées des guérisons, mais surtout l'amour que tu nous as donné. Abondamment, Père Céleste. Tu restes et tu es le même. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te remercions de nous avoir choisis comme tes enfants. Nous avons reconnu que tu es le vrai Dieu. Merci pour tes enseignements. Garde-nous toujours afin que nous ne tombions pas. Mais c'est toi aussi qui nous relève et qui nous donne la force pour continuer le chemin. Nous sommes souvent tombés, mais tu nous as toujours relevés. Nous voulons nous relever toujours avec ta force, avec ton aide, avec ta parole, surtout avec ton esprit. Je te prie pour chaque frère, chaque sœur qui a écouté ces perles précieuses, ces moments de bénédiction, Seigneur, qui tombe dans un cœur honnête, et nous voulons marcher vers cette vocation à laquelle tu nous as appelés. Te remercions, nous te bénissons, et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un peut aussi prier, un autre? Merci Seigneur Jésus. Te remercions, Seigneur, vraiment, encore pour ce soir, Seigneur. Comment tu as agi, comment tu as parlé à travers ce serviteur fidèle. Merci pour ces enseignements, parce que, Seigneur, il suffit d'écouter ta voix. Comme tu l'as dit, tu as laissé des choses écrites. Mais tu l'as écrit dans nos cœurs. Merci pour ce que Frère Franck a écrit. Nous te remercions de tout notre cœur. Tu nous as prédisposés par l'élection. Nous te remercions, Seigneur. Nous sommes vraiment heureux. Tu es fort et puissant. Tu as fait des choses avec Frère Franck, avec Frère Branham, mais aussi avec nous. Aide-nous à faire ce qui est juste, correct, avec tes enseignements. Tu as parlé à chacun, mais apporte encore ta bénédiction sur ton peuple, sur ton Église. Merci Seigneur. Merci pour les témoignages aussi. Merci au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ.